évidemment parler d'un peu de Kippour, avec beaucoup de choses que vous connaissez déjà, mais Kippour, c'est toutes les années la même chose, hein, c'est. Alors, comme vous savez, Yom Kippour, c'est un grand jour de fête. C'est un des deux grands jours de fête, dit la Mishnah, avec Tou B'Av. Pourquoi est-ce que c'est un jour de fête? Parce que c'est un jour extraordinaire. C'est un jour dans le. C'est le jour où Hachem a pardonné. Je vous rappelle que. À Matan Torah, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que à Matan Torah, on a eu enfin le pardon ultime de la faute de Adam Harishon. Vous connaissez probablement les Midrashim. Adam Harishon a rencontré Caïn. Et il s'est étonné, il dit quoi, toi t'es encore là, mais qu'est-ce qu'il y a eu avec ton procès et tout? Bah, il dit, j'ai fait tchouva, je me suis arrangé. Alors, bon, on va pas entrer maintenant dans le problème, mais alors Adam lui a dit, donc on peut faire tchouva, ça peut marcher, même une tchouva pas absolument complète. Alors, bon, dans ce cas-là, ben, je vais le faire aussi. Donc, Adam a fait tchouva, 130 ans. Mais comme vous savez, la sanction pour la faute d'Adam Harishon, c'était qu'il était devenu mortel. On était au départ immortel, et il est devenu immortel. Et avec lui, nous tous. Or, quand Adam Harishon a fait tchouva, ça n'a pas réparé. C'est-à-dire, on n'est pas redevenu immortel. Et ça a duré assez longtemps. Ça a duré, comme je vous disais, jusqu'à Matan Torah. Parce que à Matan Torah, probablement tout le travail qui s'était fait depuis la tchouva d'Adam Harishon, bien sûr, mais ensuite les avot avec le galout de Mitzrayim, la Yetziat Mitzrayim, et tout le processus, et la Kabbalat HaTorah de Matan Torah, à ce moment-là seulement, la faute d'Adam Harishon a été complètement, disons, réparée, puisque nous sommes redevenus à ce moment-là immortels. Au moment de Matan Torah, on a retrouvé l'immortalité qu'on s'est empressé de reperdre en faisant la faute du veau d'or. Donc, il s'est passé une chose énorme, et puis ensuite une catastrophe, la faute du veau d'or. Sur la faute du veau d'or, Hachem a dit condamnation à mort. Terminus avec le clan Israël. Et bon, comme vous savez, mon cher Rabbeinu nous s'est interposé, il a commencé à négocier avec Hachem. Et finalement, Hachem a partagé, il a pardonné au clan Israël. Le Baron de Vilna dit, je vous l'ai déjà souvent dit, qu'en réalité, ça n'était qu'un sursis qui est tombé avec les Meraglim. En tout cas, disons, Moshe Rabbeinu a obtenu quelque chose, et le quelque chose, c'est qu'il a obtenu en réalité trois choses. Il a obtenu les deuxièmes louchot, c'est les mêmes que les premières, bon, modulo, petites choses. Deuxièmement, il a obtenu un deuxième Shem Hashem, un deuxième exemplaire du nom divin. Je vais tout de suite revenir là-dessus. Et troisièmement, il a obtenu le mode opératoire pour l'Ebné Israël après avoir fait une faute. Comment est-ce que le clan Israël se comporte quand il a fait une faute? Comment est-ce qu'il peut se racheter en quelque sorte? Tout ça, mon cher Rabbeinu l'a ramené le jour de Kippour. Une dizaine de jours avant Kippour, mon cher Rabbeinu a ressenti que Hachem avait un petit peu changé d'avis. Vous savez que mon cher Rabbeinu a dû s'y prendre à plusieurs fois, monter à chaque fois 40 jours au Sinaï pour obtenir le pardon, et au début ça marchait pas. Mais tout à coup, une dizaine de jours avant Kippour, il a senti que ça commence à tourner. C'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le commencement d'Yom Kippour. C'est ça le Rosh Hashanah. Alors, le commencement, si vous voulez, d'une relation possible avec Hachem. Alors qu'Hachem avait décidé que le clan d'Israël n'avait plus le droit de citer. Donc à Kippour, on a obtenu tout ça. Et du coup, Kippour est devenu le jour où il y a toute une procédure qui est prescrite par Hachem au moment où on avait le Beth Amikdash pour obtenir le pardon. Il y a bien une opinion qui considère que c'est Rabbi qui pense qu'en vérité Yom Kippour est mechaper même si on ne fait pas de Tshuva. Mais comme je dis tout le temps, je vous rassure, ça ne marche pas. La halakha n'est pas comme ça, il faut faire Tshuva. Et donc, il faut faire tchouva, donc il faut se demander qu'est-ce que c'est exactement la tchouva. C'est ce qu'on a essayé de voir dans les shurim précédents. Qu'est-ce qu'on fait comment on obtient cette tchouva? Alors, le geste de la tchouva, le maasé de la tchouva, c'est le vidouille. Le vidouille, c'est une opération dans laquelle on confesse ses fautes. Mais cette confession, évidemment, elle est uniquement entre l'homme et son créateur. Elle ne doit pas être entendue par qui que ce soit d'autre. Chacun fait sa confession. Hachem. Alors, pour des raisons techniques, comme on prie les uns à côté des autres pour que l'autre il entende pas, on a décidé de mettre en forme un vidouille standard, enfin deux vidouilles standards en fait, un court et un long, un Shamnu Bagadnu etc. qui est court et un long qui est le Alchet. C'est les vidouilles standards. Comme tout le monde dit la même chose, donc l'autre, mon voisin, il peut m'entendre dire ça, lui aussi il dit la même chose, et chacun met dans ce qu'il dit, enfin devrait mettre dans ce qu'il dit, un poids particulier, selon que ce qu'il dit le concerne fortement, ou un peu, ou pas du tout. Ou disons, suffisamment un peu pour que considère que bon, c'est... Il aurait pu, il n'est pas obligé de le dire, de pas obligé d'en parler, etc. Et donc, c'est ça c'est un jour extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on appelle, on dit, ce jour-là, c'est un jour de grande simcha. Parce qu'effectivement, Hachem nous pardonne ce jour-là. Ce pardon, il est, je vous le dis, obtenu par un processus de tchouva et dont le maasé, c'est le vidouille. Alors, vous vous souvenez, on a on a essayé de dire que le processus de tshuva, il passait par un travail qui est un travail d'imagination, un travail de représentation. Parce que la question qui se pose, c'est que pour que la confession, le vidouille, ait un sens, et que la tshuva en soit une, il faut qu'on s'investisse dans cette chose-là. Donc une récitation du bout des lèvres, de Hacham no Bagadno, etc., ou en chantant, ou etc., ça ne fera pas l'affaire. Tu t'investis pas dedans, il n'y a pas de confession. C'est pas parce que la confession ne consiste pas seulement à dire j'ai fait telle et telle bêtise. Dans le vidouille, il y a, ou directement dans la tshuva, et le vidouille est un élément donc de la tshuva, dans la tshuva, il y a plusieurs moments, bon, on le connaît. Il y a un premier moment qui est de reconnaître sa faute, regretter cette faute. On voudrait ne pas avoir commis cette faute. Et puis ensuite, prendre des mesures d'engagement pour ne plus retomber, donc des mesures de précaution, pour ne pas retomber dans ces mauvaises, dans ces ornières. Voilà. Et donc, si je m'investis pas là-dedans, si ce sont des mots, alors il y a même un vidouille, une phrase du vidouille qui concerne cela. D'accord? C'est Al-Khet Shechatanu Lefanecha Bevidouille Pe. C'est-à-dire un vidouille qui n'est que de la bouche, c'est que des mots. Alors, ça veut dire qu'à la limite, le vidouille est une faute supplémentaire. Le vidouille, c'est pas la récitation de vidouille composée par les grands maîtres, etc., peu importe. Si tu t'investis pas dedans, tu n'as rien dit du tout. En particulier, bon, je le dis, mais je pense que je ne devrais peut-être pas le dire, il est évident qu'un vidouille dans une langue que vous ne comprenez pas n'a strictement aucune valeur. Dans la tfila, on peut dire que les haramim ont chargé les mots de suffisamment de sens pour que ça marche tout seul, même si je les envoie sans comprendre tous les mots. Mais le vidouille, c'est une confession, si je ne sais pas ce que je dis, j'ai rien dit. Donc c'est évident qu'il faut faire le vidouille dans une langue qu'on comprend. Alors, ou bien c'est parce qu'une langue qu'on a apprise, ou bien dans sa langue maternelle. Il faut trouver une traduction aussi bonne que possible, et c'est ça qu'il faut utiliser, bien sûr. Quelqu'un qui réciterait Hachamnou, Bagadnou, Gazalnou, etc., sans comprendre ce qu'il dit, il n'a rien fait, vous comprenez bien. Donc il n'aurait pas fait de Chouva, et donc il n'a pas fait ce qu'il fallait à Yom Kippour. Et donc, la première chose dans ce processus, c'est de reconnaître sa faute. D'abord, il faut essayer de... Je sais que j'ai fait un geste, où j'ai dit des choses, où j'ai éventuellement pensé des choses. C'est pas bien. Mais il faut que je reconnaisse qu'il s'agit vraiment d'une faute. Une faute, ça veut dire que j'ai fait des choses qui ne sont pas ce qu'Hachem voulait que je fasse. Et comme il y a une tfila que certains disent à l'entrée de Yom Kippour qui s'appelle tfila zaka, c'est une tfila dans laquelle on dit, voilà, Hachem, tu m'as donné des yeux, et ces yeux, c'était pour pour lire la Torah, pour étudier la Torah, etc. Et j'ai porté mes yeux sur d'autres choses, choses interdites, etc. Donc systématiquement, on passe en revue tout ce qu'Hachem nous a donné et tout ce qu'on n'a pas utilisé de la façon dont on aurait dû l'utiliser. C'est-à-dire Hachem nous a fait la tzedaka en quelque sorte, de nous donner toutes sortes de quali enfin d'outils et de qualités, etc. Et nous, on les a utilisés à mauvais escient, quoi. On les a utilisés de la mauvaise façon. C'est ça qu'on dit dans les slichot, on dit Bosh, nous, ça veut dire nous avons honte, en fait. Parce que toi, le Hashem Hatzdaka, toi, tu nous as fait la Hatzdaka, tu nous as donné tout ce dont nous avions besoin. Nous avons besoin. Vela nous bochet apanim. Mais nous, on ne peut avoir que honte de ne pas avoir fait avec tout ce que tu nous as donné, ce que tu nous as demandé de faire. Alors, peut-être il faut qu'on se remette dans la bonne position, en quelque sorte. Je vais répéter quelque chose que j'ai déjà souvent dit, mais le Gaon de Vilna dit que quand on veut savoir le sens de quelque chose, il faut regarder dans la Torah où cette chose-là apparaît en premier. Alors, Adam, l'être humain, sa première occurrence dans la Torah, c'est où? C'est pas dans la création de l'homme. C'est bien avant. Mais c'est sur le mode de l'absence. D'accord? La Torah, elle dit que les végétaux, quand ils ont été créés, ils se sont bien développés dans la terre, ils ont affleuré, mais ils n'ont pas continué de pousser. Et la Torah dit pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne pour prier, pour demander la pluie, pour comprendre que le monde avait besoin de la pluie. Alors, vous entendez, ici, la première définition de l'être humain, avant de dire Ruach Memalela, etc., bon, c'est sous-jacent, mais avant tout, l'homme est placé dans une situation où il est responsable de quoi? Il est responsable de la vie. Les végétaux, c'est le commencement de la vie. Et il n'y a pas de vie qui va se développer s'il n'y a pas un homme qui est là pour comprendre les besoins de la vie et pour demander, pour prier, pour que ses besoins soient satisfaits. En d'autres termes, c'est un peu paradoxal. Hachem nous a installés comme responsables et nous savons, OK, je suis responsable, mais je sais très bien que je ne peux pas assumer mes responsabilités. Parce que comment je peux faire pleuvoir, moi, maintenant? Je ne peux pas faire pleuvoir. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais ce que je peux faire. Je vais demander, presque même demander peut-être de façon impérative, à Hachem d'envoyer la pluie. Donc, mon travail consiste, comme la Torah le décrit, je suis responsable et on m'a donné un moyen, j'ai le droit, c'est un privilège d'avoir le droit de prier. C'est pas évident que une créature comme un être humain a le droit de s'adresser à Hachem. Qui sommes-nous pour parler à Hachem? Et on a déjà dit souvent que toute la tfila, elle est un impératif. En vérité, ça veut dire qu'on donne quasiment des ordres à Hachem. Et donc, c'est une chutzpah pas possible. Voilà. Et le fait même, souvent on a, je vous ai dit, la première définition qu'on doit donner de la tfila, c'est se tenir devant Hachem, se tenir debout devant Hachem. C'est pas normal. La position normale de l'être humain devant Hachem, c'est pas du tout vertical. C'est couché par terre, avec la tête dans la poussière. Pourquoi est-ce que j'ai l'impudence de me tenir debout? Parce qu'Hachem me l'a ordonné. Donc je me tiens debout devant Hachem uniquement parce qu'il me l'a ordonné. Sinon, je n'aurais pas le droit de le faire. Si vous avez toujours besoin de... Il faut entendre la condition humaine par rapport à la hauteur divine. Dire la louange d'Hachem, c'est impossible. Qui tu es pour dire la louange d'Hachem? Qu'est-ce que tu vas dire avec tes petits mots sur la louange d'Hachem? Nous, pour pouvoir dire les psukim des Zimra, par exemple, dans la tfila, il faut dire Baruch She'amar avant et terminer par Ishtabach. Ça, c'est Baruch She'amar, c'est un matir, c'est une tfila qui permet de dire les louanges d'Hachem. Bon, alors vous me direz, il y a le Nusar Sfardi Alpi Kabbalah où on dit déjà une partie des Tehillim qui sont avant de dire Baruch She'amar. Bon, je ne sais pas comment ça marche. Rizal qui a dit de faire ça, il devait savoir de ce qu'il disait. Ils ont dit Ashkenazim, c'est pas possible. On dit rien, aucune louange d'Hachem avant d'avoir dit Baruch She'amar. Bon, ça c'est l'idée. Mais donc ça veut dire, on a besoin de permission. C'est pas évident du tout qu'un moustique va se mettre à raconter les louanges d'Hachem. Qui tu es pour raconter les louanges d'Hachem? Tout ça, c'est parce que nous sommes metsuvim. C'est ça le changement qui s'est produit à Matan Torah. On est devenu metsuvim. C'est-à-dire, nous sommes dans une relation avec Hachem, où Hachem est le metsavé, qui nous donne des ordres, et nous, on est le metsuvé, et nous faisons ce qu'Hachem nous a demandé de faire. Donc, l'homme est responsable du monde. Alors, être responsable de la pluie, alors, c'est responsable de la vie dans le monde. Alors, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de monde. Il n'y a rien qui marche s'il n'y a pas de pluie. Si on n'a pas d'eau, on ne peut rien faire. On est donc responsable, et puis on nous a donné les moyens d'assumer cette responsabilité. C'est un peu étrange, mais c'est comme ça qu'Hachem a voulu l'humanité, c'est comme ça qu'il a voulu le monde, pour être reconnu par les hommes comme Meller. Bon, c'est comme ça, ça on ne comprend pas, on ne veut pas savoir, d'accord, on ne va pas se mettre à faire de la psychologie divine. On n'en sait rien, on ne sait pas pourquoi Hachem, ça c'est la volonté d'Hachem. Par conséquent, ça c'est la condition, c'est la situation de l'homme dans le monde. Il est responsable du monde. Rashi va expliquer dans la Gemara dans Souka, va expliquer que les nanouim, vous savez, ces mouvements qu'on fait avec le loulav, d'accord, avec les arba minim, ça consiste à repousser les mauvais vents, repousser les mauvaises pluies et rapprocher les bons vents et les bonnes pluies. C'est ça, ces mouvements. C'est ce que Rashi explique dans la Gemara dans Souka. De nouveau, le problème, c'est responsable. Et c'est à Sukkot. Sukkot, c'est le problème de l'eau qui est posé, avec les libations d'eau, etc., toutes ces questions qui tournent autour de l'eau. et on fait des gestes pour bien montrer quelque part une certaine responsabilité de choisir. Non seulement je suis responsable de point de vue, mais à choisir, je suis en situation de choisir les bons vents et les bonnes eaux. Ça, c'est ce qu'on a appris dans la paracha la semaine d'avant, dans laquelle on nous a dit « Uvacharta b'chaim » « Tu devras choisir ». Uvacharta, ça veut dire « Tu dois voir à chaque fois qu'il y a deux choses devant toi et tu dois en choisir une au détriment de l'autre. » Tu dois choisir, c'est nous qui devons décider. Quelles sont les bonnes pluies, les bons vents? Donc, dans cette responsabilité-là, on est donc responsable des moyens qui ont été mis à notre disposition pour faire ce que nous avons à faire, qu'on ne pourrait évidemment pas faire si Hachem ne nous donnait pas les moyens de le faire. Il nous a donné des obligations, il nous a donné les moyens de faire face à nos obligations. Et le problème, justement, c'est ça le vidouille, c'est que on n'a pas fait ce qu'il fallait avec les moyens qui nous ont été donnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous rappelle ce qu'on avait dit, que d'une certaine manière, ça c'était d'après le Nefesh HaChaim, après Mnevologine, d'une certaine manière, ma vie, donc ma neshama, la neshama de quelqu'un qui fait une faute, sa neshama, elle est au mauvais endroit. Elle est dans le domaine du rat, dans le domaine du mal. Elle n'est pas à sa place. Il est celui qui fait une faute, il est en train de donner de la vie au mal qui n'en a pas par lui-même. Mais du coup, lui, il lui manque de sa vie, quoi. Il est plus aussi vivant. Et éventuellement, il est plus vivant du tout. Parce qu'il devient un rachat. Un rachat, même quand ils sont vivants, ils sont appelés morts. Parce que spirituellement, ils sont morts. Alors, suivant quelle faute on a commise, alors on peut se retrouver un mort vivant, quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, on est spirituellement mort, même si ça continue de vivre. Mais évidemment, c'est très important parce que le chesed, le rachamim d'Hachem, c'est que dans toutes les situations, on peut redevenir vivant, vraiment vivant. Il faut aller, dans toutes les situations, il y a une possibilité d'aller rechercher la neshama qu'on a laissé partir du côté dans le domaine du mal et de la réinstaller. Celui qui a fait la faute, voilà, il se réinstalle sa neshama, donc il retrouve la vie. Il retrouve la vie avec toute son intensité, bien sûr. Entre-temps, il n'est pas obligatoirement mort, mais il est spirituellement mort ou socialement mort ou toutes sortes de formes de mort, en fait. Donc, toutes sortes de formes de vie. Donc maintenant, on avait vu, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, que le processus de tshuva, on peut essayer de l'expliquer en s'appuyant sur la description que la Torah nous fait du processus de Avera. On avait regardé comment Chava a pu manger de ce fameux fruit-là. Chava, c'est la même chose. Chava, Adam, c'est... Comment est-ce qu'elle a pu? C'est impensable. Le Nefesh HaChaim avait expliqué que Adam et Chava n'avaient rien à voir avec le mal. Absolument rien. Donc comment est-ce que tout à coup elle peut faire, elle peut tomber dans la faute en question? Vous vous souvenez, on avait expliqué que le Nahash, il avait réussi à ce que Chava, dans sa tête, elle pense, elle se représente, comment ce serait si, Chas v'shalom, je ne vais pas le faire, mais comment ce serait si je fautais, si je mangeais du fruit de cet arbre? Comment ce serait? Je ne vais pas le faire, bien sûr. Et donc, elle se l'est représentée, mais comment elle se représentait? Bah, est-ce qu'elle avait comme description? C'est la description que le Nahash lui a donnée. Et du coup, ça veut dire que dans sa tête, elle a fait exister la possibilité de la faute. On sait aujourd'hui très clairement que les zones du cerveau qui sont en cause dans l'imagination, dans la représentation, sont exactement les mêmes qui sont en cause dans l'action. C'est plus la plus grande nouveauté, c'est il n'y a pas si longtemps. Et par conséquent, si vous voulez, quelque part, le chemin, il est fait dans son cerveau. Et son cerveau, il est là et ça va se réaliser. Et ça s'est réalisé. Alors du coup, parce que dans son imaginaire, le fruit en question, il était beau, il était bon, il ouvrait des horizons, etc. Tout à coup, elle a dit, elle l'a vécu comme ça. Voilà, c'est descendu en concret. Alors on a dit qu'on va prendre le même processus et on va l'appliquer à la tchouva. Bon, c'est de bonne guerre, en quelque sorte. Si, le problème, c'est comment je fais tchouva? Puisque ma vie, comment est-ce que quelqu'un peut faire tchouva? Sa vie, elle est pas vraiment là, quelque part. Puisqu'il est déjà du côté du mal. Alors, comment on fait? Quelle motivation, comment ça commence? Bien, c'est ça. Il faut appliquer le même principe. Il faut fabriquer dans sa tête la situation de comment est-ce que ce serait si je faisais vraiment cette mitzvah que Hachem me demande de faire. Quelle serait ma position dans le monde? Qu'est-ce qui changerait? Et à ce moment-là, c'est ce qui va changer. C'est comment sur quoi je vais me baser pour dire que ça sera bien. J'ai tous les chazal qui m'expliquent que c'est bien. C'est bien que. Et donc, voilà, je vais avoir cette représentation. Et du coup, ça va être possible de faire tchouva. Je me le représente et ça me permet de descendre les choses jusqu'à les réaliser concrètement. Et même si ce n'est pas encore complètement réalisé, parce que les engagements que j'ai pris pour le futur ne sont pas encore réalisés, Mais dans ma tête, ça existe déjà. Dans ma tête, si c'est là, et dans ma tête, c'est comme c'est déjà fait, d'une certaine façon. Ça, c'est extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on sait que ce sont des réalités de la... neurologie cognitive, je ne sais pas ce qu'on appelle ça. Ce sont des réalités scientifiques. On n'a pas besoin, mais voilà, en plus, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est connu déjà même. Donc, ceci étant, vous vous souvenez, on avait dit qu'il fallait encore un point un peu plus délicat, c'est la tshuva pour une mitzvah assez, c'est-à-dire se représenter comment ce serait si je faisais la mitzvah de Bikur Cholim, comment ce serait si je faisais la mitzvah de Lulav ou de Shofar, etc., ou de manger de la matzah à Pessah. Ça va, c'est encore relativement facile. Et le problème qui se posait, c'est mais comment on fait tshuva sur un lot assez? Comment on fait tshuva sur les averot que j'ai faites, que quelqu'un a faites, en transgressant un interdit? Je ne peux pas me représenter ce que je vais faire. Alors, vous vous souvenez ce qu'on avait dit? On avait pris l'exemple de la Shonara, pour prendre quelque chose qui est commun à tout le monde. Il est clair que la tshuva sur le Lachonara, elle ne consiste pas à dire « plus jamais je ferai de Lachonara ». Comme on dit, on peut tout de suite lui donner son coup de bâton, parce que ce n'est pas vrai, ça ne tiendra pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait aller regarder pourquoi est-ce que je fais le... Pourquoi quelqu'un va dire du Lashon Hara? Il va dire du Lashon Hara parce qu'il a envie d'une certaine position. Il a envie d'entrer, par exemple. Elle veut faire partie de ce groupe-là. Voilà. Et donc, il y a une espèce de... Comme toujours, pour entrer dans un groupe, il y a toujours... ou bien on est coopté, alors il faut apporter quelque chose. Le groupe vous veuille parce que vous allez apporter quelque chose. Alors vous allez vous allez apporter une information. N'oubliez pas que la Shonara, c'est pas du tout là, c'est pas Moutsi Shemra. La Shonara, c'est vrai. Seulement, tu n'as pas le droit de le dire parce que la personne en question, elle ne t'a pas donné le droit de le raconter. La Shonara, ce n'est pas Motsi Shemra. Alors, comment je peux faire? C'est la même chose, toujours la même histoire. Tu veux obtenir un certain résultat. Alors, dis-toi, ok, je veux ce résultat-là. Mais le chemin que je connais, le chemin est interdit. C'est le résultat qui est interdit. C'est le chemin qui est interdit. Bon. Mais il va falloir inventer un chemin permis. Donc, ça pousse à une créativité, une inventivité. Enfin, je veux être reconnu dans ce groupe-là. Il faudra que je leur montre que c'est leur intérêt de me reconnaître. J'ai quelque chose que je peux apporter dans ce groupe-là. Qu'est-ce que je veux apporter? Je ne sais pas, moi, faire une start-up qui va aider, je ne sais pas, qui va s'occuper des malades ou qui va enseigner à des enfants qui ont une personne qui va s'occuper d'eux, je ne sais pas. Invente quelque chose. Invente un chemin qui va te faire renaître comme connu par ton lashon hara. C'est une représentation, cette fois-ci, ça demande de l'inventivité. Il en fallait aussi, d'ailleurs, parce que quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot, il faut aussi l'imagination pour arriver à s'imaginer comment ce serait si je faisais la mitzvah. Donc ça, c'est le travail qu'il faut faire pour pouvoir faire tshuva. Et ensuite, parce que j'ai maintenant une motivation, je sais comment, pourquoi j'aurais envie de le faire, parce que je me suis déjà dans ma tête. Encore une fois, les choses existent à différents. Quand quelque chose existe dans ma tête, ça existe. On peut presque dire presque de la même manière dans mon cerveau. C'est presque pratiquement de la même manière que quand je fais la chose. La représentation ou faire la chose, ce sont les mêmes zones dans le cerveau. C'est les mêmes processus. À ce moment-là, le vidouille, il a un sens. Parce qu'à ce moment-là, je veux arriver à ça. Et à ce moment-là, je comprends bien qu'il y a des choses qui sont incompatibles. Vouloir cette chose-là, cette proximité avec HM, etc., et se conduire comme une crapule. C'est quelque chose que les hommes ont beaucoup de mal à entendre. S'imagine toujours que quelque part on peut se débrouiller avec Hachem. Mais c'est ce que les Nevim n'ont pas arrêté de dire au clan d'Israël. Jusqu'à la fin, dans le Beth Amikdash, les choses se déroulaient exactement comme elles devaient se dérouler dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce que disent les Nevi'im? Shem Hashem, au nom d'Hashem. J'en ai rien à faire de vos korbanot. J'ai pas du tout envie que vous soyez là sur mes parvis, alors qu'à l'extérieur, vous conduisez comme des crapules. C'est injurieux vis-à-vis d'Hashem. C'est comme si on disait, ok, alors maintenant, je t'ai donné pas. Ah, j'ai fait maintenant la. Hachem dit, mais c'est pas ça la Torah. Les hommes pensent toujours que, d'une certaine manière, je vais prier, je vais donner la tzedaka, je vais étudier, etc. Mais si, madame la Ravero, tu te conduis comme une crapule. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne t'investis pas du tout. Toi, tu n'es pas dans le faire les choses comme Hachem veut les faire, puisque en même temps, tu continues de faire des choses impensables. Et il faut bien savoir que nous en sommes capables. Quand la Torah nous dit qu'il y a un avis, dans l'histoire avec les prophètes du Baal, il leur a dit, mais vous ne pouvez pas avoir un pied du côté du Baal et un pied du côté de Hachem. Il faut choisir. Ça veut dire que les gens n'avaient pas, je ne voyais pas qu'on a pratiqué une forme d'idolâtrie et en même temps aller un Beth Amikdash ou porte ou un Mishkan, vous ne voyez pas la contradiction. Ce qui est important, c'est que il y a dans toute la démarche, il y a le côté de cette relation que il s'agit pas seulement de faire les choses bien. Parce que on n'a pas besoin d'être juif pour faire les choses bien. Qu'est-ce que ça change si quelqu'un fait les choses bien, se conduit bien, ben Adam l'Chavero, et un juif qui se conduit bien, ben Adam l'Chavero, c'est quoi la différence exactement? Est-ce qu'il y a une différence? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a une différence? Et si oui, quelle est-elle? Vous pouvez ouvrir votre micro. Pas tous à la fois. Oui, c'est ça. La grande différence, c'est que nous sommes Metsouvim. Nous sommes Metsouvés. C'est-à-dire, je ne fais pas les choses parce que moi, je pense qu'elles sont bien. Je fais les choses parce qu'Hachem a demandé de les faire. Alors, je peux très bien comprendre. Voilà, je trouve ça formidable. Mais il y a aussi des choses où je ne comprends pas pourquoi Hachem de dire de faire comme ceci plutôt que comme cela. J'aurais peut-être fait autrement. Et quand je fais les choses par moi-même, alors je le fais pour l'autre, je suis sympa, parce qu'il a une tête qui me revient, parce que je suis de bonne humeur, parce que, etc. Alors que si je suis Metsouvé, alors je dois le faire, que la tête du bonhomme en question, la bonne femme en question, me revienne ou pas, que je sois de bonne humeur ou de mauvaise humeur, d'accord, que j'ai gagné au loto ou qu'on a embouti ma voiture, peu importe, c'est exactement la même chose. Je suis Metsouvé, je dois me conduire de cette manière-là. Et ça fait toute la différence. Donc pour nous, les choses, elles commencent toujours par la réflexion. Je suis Metsouvé, j'ai un rôle à jouer. Hachem m'a installé dans le monde et il m'a installé responsable. C'est ça. Et donc j'ai un rôle à jouer. Hachem veut être reconnu comme Melech et il n'y a que moi qui puisse le reconnaître comme Melech. Parce que les escargots et les limaces ne reconnaissent pas Hachem comme Melech. Tu me diras, on ne l'aura jamais demandé, mais bon. C'est ça. Et ça change tout. Il faut comprendre, effectivement. Toujours avoir ça présent à l'esprit. À ce moment-là, on fait le bidouille pour régler les problèmes. Il y a des problèmes, il faut les régler. Mais j'ai envie de les régler parce que je veux obtenir, je veux jouer le rôle que Hachem m'a prescrit de jouer. Hachem a donné à Moshe Rabbeinu, il lui a donné un deuxième exemplaire du nom divin. Dans les Shlosh Esrei Midot, on va en reparler, qui sont dites et redites et redites à Yom Kippour, ça commence par Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanun, etc. Pourquoi il y a deux fois Hachem? Alors, la réponse, c'est un, c'est Kodem Achet, et le autre, c'est Lachar Achet. Qu'est-ce que ça veut dire? La Kavana qu'on doit avoir quand on prononce le Shem Hashem, le tétragramme, c'est d'abord que Hashem est le Adon, il est le maître. Et deuxièmement, qu'il est Mehavé, il fait exister toute chose. Parce que lui, il est Aya, Ove, Bi. Donc, il fait exister toute chose. Il est le maître qui fait exister toute chose. Le premier nom divin qui fait exister, c'était un nom divin qui ne donnait la vie qu'à la condition que on se comporte comme Hachem veut qu'on se comporte. Et à partir du moment où les Bnei Israël se sont mal comportés, ils n'avaient plus droit à la vie, c'est ça. Quand Hachem a dit « vous êtes condamné à mort », ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem ne donne plus le droit à la vie en question. Ce nom divin-là, il ne permettait pas de vivre au-delà de la faute. Et Hachem a donné à Moshe Rabbeinu un autre exemplaire, c'est toujours le même nom divin. Et dans ce deuxième nom divin, c'est un nom divin qui donne la vie même au-delà de la faute. C'est-à-dire que tu peux vivre même si Hachem nous permet de vivre, même si on n'a pas fait ce qu'il faut, pour qu'on puisse se rattraper, etc. Donc c'est une chose assez énorme qui nous a été donnée, c'est-à-dire la vie au-delà de la faute. Ça, c'est la deuxième chose qu'il a donnée. Ça aussi, on l'a reçu à Yom Kippour. Et la troisième chose, donc en plus des Lukhot, donc la troisième chose qu'Hachem a donnée à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, voilà, puisque maintenant, on parle d'un peuple juif qui va faire des fautes, qui a fait des fautes et qui va en refaire. On a lu cette semaine, on a lu ces paragraphes assez terribles où Hachem dit à Moshe, Moshe le dit au peuple, je sais très bien que vous allez fauter. D'ailleurs, vous fautiez de, dit Moshe Rabbeinu, vous fautiez quand j'étais là, bon, quand je serai plus là, ça va pas changer, hein, c'est. Et donc, ça pourrait avoir des conséquences très graves. Alors, Hachem a donné à Moshe Rabbeinu un mode opératoire. Il lui a dit, quand Klal Israël fautera, tu désigneras un Shaliach Tzibour, et Hachem lui a montré l'image, un Shaliach Tzibour avec son talit sur la tête, et qui va prononcer les Shlosh Esrei Midot, Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanun, Vechule, etc. Et moi, je pardonnerai. Incroyable. Incroyable et presque gênant. Peut-être que ça vous dérange pas. C'est quand même un peu gênant, non? C'est quoi? C'est une espèce de moulin à prière, non? Face de shalom, ça ressemble énormément. La faute, tu fais tourner le moulin à prière. Et Hachem pardonne.
C'est-à-dire que ça, c'est systématique, ça, puisque c'est systématique, alors qu'auparavant, vous nous disiez qu'Hachem nous veut extrêmement responsables. Là, ça nous infantilise aussi.
Oui, c'est pour ça que c'est difficile à supporter. Mais si vous voulez bien regarder vos marzorim, vos textes pour Yom Kippour, vous allez voir. Yom Kippour passe son temps à répéter les Shlosh Esrei Midot. Alors, entre-temps, il y a d'autres piyutim, il y a des choses, on ne peut quand même pas répéter tout le temps la même chose. Alors, sinon, ça serait vraiment le moulin à prière. Alors, il y a d'autres choses, d'autres poèmes extraordinairement beaux, etc., qui ont été, qui sont pas les mêmes dans le Moussar Ashkenaz, Farad, etc. On voit très bien que c'est une autre littérature, c'est une autre façon de penser, etc. Mais en fait, on dit tous la même chose, on répète les choses chez Sremidot. Donc on fait ce qu'Hachem nous a dit. Quand vous fauterez, ben vous réciterez les choses chez Sremidot et moi je pardonnerai. Mais quand Hachem dit qu'il va nous pardonner à Yom Kippour, alors que Rabbi même il disait, même on n'a même pas besoin de faire tshuva, il pardonne aussi. Bon, là, je vous ai dit, là, elle n'est pas comme ça, mais c'est quand même qu'on puisse penser une chose pareille, c'est étonnant, non? Au temps du Beth Amikdash, Yom Kippour, c'était un jour où c'était le Kohen Gadol qui faisait tout le travail. Le Kohen Gadol, il courait toute la matinée, toute la journée, toute la matinée, une partie de l'après-midi. Il faisait tout ça au galop quasiment, très très vite. Et c'est lui qui faisait le vidouille pour le peuple. Pas quand, dans vos marzorim, dans vos textes, si vous ouvrez, vous verrez, il y a une description de la avoda. Dans Moussaf, dans la tfila de Moussaf, on nous raconte comment ça se passait. Et le Kohen Gadol, il faisait un vidouille. En fait, il en faisait trois. Il faisait un vidouille pour sa famille. Ensuite, il faisait un vidouille pour l'ensemble des Kohanim. Et ensuite, il faisait un vidouille pour tout le monde. Le dernier vidouille, il disait, Ana Hachem, s'il te plaît, Hachem, je te supplie, en fait. Khatou, Avou, Pachou, Israël, ils ont fait Chet, Avon, Pesha. Ils n'en disaient pas plus, ils ne disaient pas Hachamnou et tout ça, mais trois choses. Ils ont fait toutes les fautes possibles, quoi, les Chet, Avon, Pesha. Alors, il faisait d'abord, pour pouvoir lui fonctionner, il fallait qu'il se purifie d'abord. Ensuite, comme c'est les Kohanim qui étaient les Shluchim, eux qui faisaient le boulot, il fallait qu'eux aussi se purifient pour ensuite purifier et demander le pardon pour tout le peuple. Et le peuple, il attendait. On attendait que la fameuse languette rouge, elle blanchisse pour voulait dire qu'Hachem avait pardonné. Donc, il y avait un Kohen Gadol qui faisait le job pour tout le monde. Alors, c'est pas très clair. Est-ce qu'on priait? Qu'est-ce qu'on priait pendant ce temps-là? Est-ce qu'on faisait autre chose que d'attendre qu'ils sortent pour que, quand ils sortent, on fasse la grande fête avec Marie Cohen? Que tout le monde sait, non? Effectivement, c'était une très grosse fête. Mais lui, c'était épuisant pour le Gadol, parce que chaque fois, il fallait, comme on jouait toujours sur deux paires de, sur des vêtements blancs et des vêtements dorés. À cause du veau d'or, on pouvait pas, il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas faire avec des vêtements qui portaient de l'or. Alors il fallait chaque fois changer. Chaque fois qu'il devait changer, il y avait tout un problème de purification. Il fallait au mikvé, ou en tout cas se purifier les mains, les pieds. Ben, c'était vraiment très, physiquement très éprouvant, en fait. En plus de tout. Mais ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui faisait le travail pour nous. Avec la destruction du Beth Amikdash, c'est fini. Il n'y a plus personne qui fait le travail pour nous. Faut le faire tout seul. Le Shliach Tzibour à la synagogue, il fait pas le travail pour vous, hein. Bon, alors, il dit à haute voix, éventuellement pour ceux qui savent pas lire, etc. Et bon, mais en fait, il ne fait pas le travail pour nous. Le vidou, il faut le faire tout seul. Et les shloshes remidot, il faut les dire tout seul. Alors, on les dit tous ensemble, mais chacun doit les dire. On ne peut pas compter sur le shlear sibour, il va le dire pour tout le monde. Non. D'un autre côté, effectivement, ça a l'air un peu étrange qu'on nous dise d'emblée, voilà, il y a une formule, tu vas dire les 13 midot de Rachamim, et Hachem dit, mais je pardonnerai. Alors, bien sûr, c'est pas qu'il faut les dire comme ça, ça veut dire qu'il faut nommer quelqu'un qui va représenter le clan Israël et qui va. Donc, il y a toute une démarche de prise en charge, mais à la limite, même celui qui nous prend en charge, lui aussi, il dit ce qu'on lui a dit de dire. Alors, il y a le vidouille. Voilà, on a fauté. On connaît, on a fauté. Et donc, essentiellement, ce qui reste pour les gens, ça va être de reconnaître sa faute. Et reconnaître sa faute, c'est pas facile. Parce que on a toujours tendance à se justifier, à dire oui, bon, mais peut-être que ce n'est pas vraiment une faute, c'est peut-être voilà, une circonstance atténuante, etc. Ou bien je ne savais pas, etc. Il y a plein de théodicim comme ça. Mais si on ne reconnaît pas la faute, il n'y a rien qui commence, c'est ça l'histoire. Rien ne commence si tu ne reconnais pas ta faute. Et donc, il y a un gros travail à faire de reconnaissance de la faute. Impératif. On ne peut pas faire autrement, si vous voulez, que reconnaître sa faute. Sinon, rien ne commence. Dans la Amida qu'on a déjà dit à Rosh Hashanah, et un petit peu même dans les modifications qu'on apporte à la Tfila pendant la Aseret Yemei Teshuva, il y a un texte qui est particulièrement intéressant. On dit dans la Mida, dans la troisième bracha, sur la Kdusha, on intercale les trois Uvchen, Ten Pardecha, Ten Kavod et Uvchen Tzadikim. Et puis ensuite, on dit Vetimloch Ata Hashem Levadecha. Et on demande à Hashem de régner lui seul sur le monde entier, sur Kol Maasecha, et que la résidence divine soit le Har Tzion. Betamigdash, à Yerushalayim. Bon, on dit ensuite, donc, on termine, Imloch Hashem Leolam, etc. Et ensuite, on termine la bracha, Kadosh Ata, tu es saint, Venora Shemecha, ton nom est redoutable, Ven Eloka Mibaladecha, il n'existe aucune divinité en dehors de toi. Comme il est marqué, alors, a priori, comme il est marqué, on va apporter un verset qui va nous aider, qui va servir d'appui pour ce qu'on a dit précédemment. C'est comme ça que ça fonctionne d'habitude. Alors, c'est marqué comme ça. Vayikba Hashem Tzvakot Bamishpat. Hashem Tzvakot, il est élevé par le Mishpat, par la justice, la Kelakadosh Nigdash Mitzdaka. Et le Dieu Saint est sanctifié Mitzdaka. Par la Tzdaka. Baruch Hashem, Amelech Akadosh. C'est quoi cette Tzdaka par laquelle Hashem est sanctifié? Hashem est Nigdash Mitzdaka. Ce mot de tzedaka, hein, c'est pas du tout par la tzedaka qu'on donne. Il est sanctifié par la tzedaka. Qu'Hachem soit sanctifié, ça veut dire que Hachem est singularisé. Kadosh, ça veut dire singularisé. Kadosh, ça veut dire élevé, mais ça veut dire séparé. Alors, il fait quelque chose qui le sépare, qui le sanctifie. Qu'est-ce que c'est? Tzedaka. J'ai entendu quelqu'un expliquer, ça m'avait plu, je vais vous le rapporter, que le mot tzedaka qui est dit là, c'est le même mot, tzedaka, que celui par lequel on commence toutes les slichot. On dit le Ha Hashem Hatzdaka velanu boshet apanim. Toi, Hashem, tu as la Hatzdaka et nous, on a honte. Et là, on vient de dire au début du chiyur que cette Tzedaka, c'est quoi? C'est que Hashem nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour jouer notre rôle. Vela nous boche ta panie, mais nous, on a honte parce que on n'en a rien fait de ce que tu voulais qu'on fasse. Qu'est-ce que c'est la tzedaka? La tzedaka, c'est Hachem est sanctifié ici, et tzedaka, parce qu'il Il a mis à notre disposition toutes les qualités. Il nous a doté d'un corps qui fonctionne, qui permet de voir, qui permet d'entendre, qui permet de faire toutes sortes de choses. Et Hachem est sanctifié par là, par le fait de nous avoir donné à nous tout ce dont on peut avoir besoin pour sanctifier Hachem, en fait. Et donc, on va dire ici, Hachem est, ça commence, Hachem est Kadosh, son nom est redoutable, c'est aussi, bon, c'est un peu la même chose aussi. Il n'y a pas d'autre divinité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme on dit dans le verset, c'est que Hachem Tzvakot est élevé grâce au Mishpat, grâce à la justice, en fait. Mais le Dieu Saint, Akel Akadosh, lui, il est sanctifié par la Tzedaka. Donc, il faut essayer de réfléchir. C'est quoi cette sanctification de Akel Akadosh par la Tzedaka? Si la Tzedaka, a priori, c'est toujours le même mot. Quand on dit le Hashem Hatzdaka, c'est quoi la Tzedaka? C'est le Tzedek, ça veut dire c'est la justice. Le fait que, et aussi la Tzedaka, c'est pas seulement le Chesed, si on veut. C'est un Chesed, mais aussi qui rétablit une forme de justice, quoi. Donc ici, Hashem, il est sanctifié parce que il nous a demandé des choses et il nous a donné tous les moyens de faire exactement tout ce que nous avons à faire. Et c'est ça qui singularise, si vous voulez, Hachem, parce qu'il est seul, évidemment, c'est ça qu'on veut mettre en évidence ici, à pouvoir nous donner tout ce dont on a besoin et à savoir tout ce dont on aura besoin dans toutes les circonstances de la vie. Donc il faut savoir exactement, et ça il n'y a que lui qui le sait, savoir exactement tout ce dont les hommes ont besoin pour vivre, pour faire tout ce qu'ils ont à faire, et leur donner exactement tout ce dont ils auront besoin dans toute leur vie, en fait. Et ça, c'est pour le monde entier. Et ça, c'est le... C'est ça la Kdusha. C'est ça la sainteté d'Hachem. C'est ça le caractère complètement différent de toute chose, parce que justement, il est seul à savoir et à pouvoir nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et c'est en cela qu'on a ici une espèce de justification, le kakatouv, comme c'est marqué dans le verset. Effectivement, il y a un verset qui dit que tu es saint, etc. Où est-ce que le verset le dit? Le verset justement dit que les nikdash bitzdaka. C'est ça, c'est nous, après avoir dit qu'on veut qu'Hachem règne, etc., dans le monde entier. C'est à la suite de cette reconnaissance, parce que la bracha, la troisième bracha, vous savez bien qu'on a changé le nous toute l'année, on dit « Akel HaKadosh » et pendant les Aseret Yemei Teshuva et Rosh Hashanah Yom Kippour, on dit « Amelech HaKadosh ». Amelech, c'est le roi, c'est-à-dire celui qui est reconnu par ses créatures. D'accord, c'est toujours la différence entre le Malchut et la Memshala. Reconnu, Amelech, Kadosh. Il est Melech, effectivement, parce que les créatures, justement, le reconnaissent comme Melech. Parce que, justement, il a tout donné, il a donné tout ce dont on a besoin pour jouer notre rôle. Et donc, à Yom Kippour, ça, on le dit tout le monde. On le dit à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, et on dit quelque chose qui n'est pas tellement lointain, avec notre changement à Melech HaKadosh dans la tfila ordinaire. On ne marque pas de façon aussi parlante cette Kedusha. Quand on dit qu'Hachem nous a donné tout ce dont on a besoin, il nous a donné les moyens d'obtenir la tchouva. Il nous a dit, voilà ce qu'il faut dire. Alors, Claudine dira que ça infantilise. C'est ce qu'on peut penser pour mon premier abord. Mais en réalité, il ne s'agit pas du tout d'infantiliser. Il s'agit d'une telle confiance d'Hachem en l'homme qu'Hachem lui dit, Hachem nous dit, voilà, je vous donne tous les moyens. Je vous donne les moyens de faire ce que vous devez faire et je vous donne les moyens, si vous ne faites pas ce que vous deviez faire, de vous racheter. Et qu'est-ce que c'est les... Comment le rachat est-il possible? Le rachat, il n'est possible qu'en utilisant, en s'appuyant sur une nouvelle mida qui s'appelle Rachamim. On ne peut pas demander, on ne peut pas s'appuyer sur le mida tadin. Ce mida tadin est dit, t'as fauté, tu payes. On ne peut pas. Le chesed, c'est un chesed dans le monde, etc. Mais c'est déjà du chesed, toute la tzedaka qu'Hachem nous fait. Mais il me donne la possibilité d'être presque autonome. C'est-à-dire, je peux nous donner ça, c'est presque comme si on peut se pardonner tout seul, quoi, quelque part. Je n'ai qu'à dire les choses. Et Hachem dit, je pardonnerai. Ça veut dire, c'est nous qui décidons. Une fois qu'on décide que voilà, on décide que bon, On voudrait avoir le pardon. Ok, tu as les moyens. On n'a presque pas besoin de demander spécifiquement à chaque fois pardon. Ça nous a donné la possibilité, avec ce Flechès Rémidot, de nous débrouiller tout seul, on peut presque dire. Vous avez tous les moyens, vous avez tout en main. Vous pouvez faire comme vous, faire les choses tout seul. Vous n'avez pas besoin de... Bien sûr, il faut on les adresse. C'est Shloshes Remidot, on se tourne vers Hachem. Mais on ne nous demande pas d'inventer. Là, pour le coup, on n'a pas besoin d'inventer un nouveau chemin. Bon, je te donne le chemin. Le chemin, tu récites ces Shloshes Remidot. Avec le risque, effectivement, qu'on le prenne pour ce que ça n'est pas. Ce que c'est une énorme confiance qui consiste à « je te donne tous les moyens », y compris le moyen de retrouver ta neshama en quelque sorte, si jamais tu l'as perdu. Sans me le demander directement. Tu fais comme ça, c'est acquis. Je sais déjà. Ça veut dire qu'Hachem a donné au clan d'Israël une puissance incroyable. Vous, clan d'Israël, vous avez les moyens, presque par vous-même, de vous absoudre, finalement. Et c'est très étonnant. C'est un peu fou, quoi. Mais c'est ça la puissance qu'Hachem a donnée au clan d'Israël, qu'il a donnée à l'être humain en général, et en particulier à Atem Kruim Adam, au Bnei Israël. C'est ça qui me semble-t-il absolument, enfin à la fois bouleversant et une qualité de rapport d'Hachem avec le clan d'Israël qui est inimaginable, tout à fait inimaginable de donner tellement de pouvoir. Voilà ce que je voulais dire. Il reste quelques minutes, je peux répondre aux questions s'il y en a.
Oui, si vous voulez, est-ce qu'on peut comprendre à travers cette explication le Rambam qui dit « Meïd alaf va à la Talmud » C'est ce témoignage qu'on ne comprend pas comment il peut se faire.
Oui, il y a beaucoup de... Ils ont pas obligatoirement avec ce que j'ai expliqué là maintenant, mais il y en a qui retournent la chose et qui disent que l'homme doit prendre Hachem à témoin qu'il s'engage vraiment. Et simplement, il le sait pareil. Je le prends à témoin comme Moshe Rabbeinu va prendre Hachem va Aretz dans Azinu à témoin. Je prends Hachem à témoin que je suis vraiment parfaitement sincère quand je fais tchouba. Je le dis. Là, ça veut dire c'est un peu travaillé dans le texte, mais c'est la seule chose que j'ai comprise pour l'instant. Les autres, c'est encore plus de gymnastique pour arriver à faire entrer dans les mots. Tu as raison, on ne peut pas dire que Yodéa qu'Hachem sait qu'on ne va pas le faire. Qu'on va plus jamais faire, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est très bien qu'on va. Pas de résolution, c'est pas très bien combien de temps ça va durer. Quoi.
Bon, du coup, est-ce qu'on est bien à la hauteur de cette confiance énorme?
Qui est-ce qui parle?
C'est Shirley.
Ah, excusez-moi. Ben oui, on est invité à être à la hauteur.
Brave, on est invité à être à la hauteur, mais Hachem a voulu, on a eu marre, a voulu nous abandonner. Ben, puisque Moshe a interféré pour nous, Hachem, à un certain moment, a quand même manifesté qu'il en a marre de ce peuple.
Oui, enfin, bon. Je suppose ce que vous voulez dire, que, bien entendu, Hachem dit que ce peuple-là, il n'est pas à la hauteur, il n'est plus à la hauteur.
Oui.
C'est-à-dire que le ticket, comme on dit, le ticket qu'on avait reçu, il n'est plus valable. C'était le premier Shem Hachem qu'il nous avait donné, il ne va que jusqu'à ce qu'on faute. Si tu fautes, c'est fini. C'est un peu, c'est presque un Midat Hadin. Sauf qu'on ne t'est pas sanctionné tout de suite, mais tu fautes, bon, bah, finalement, il y a un degré de faute qui est, voilà, c'est tout. Si, et c'est pour ça que, c'est ça qu'Hachem a dit, c'est pas qu'il en a marre. C'est qu'en fait, dans le monde, il faut qu'on comprenne qu'il a fallu l'intercession de mon cher Abeinu pour que Hachem, ça veut dire qu'il faut qu'on a eu besoin quand même du travail de Moshe Rabbeinu pendant plusieurs fois 40 jours pour qu'Hachem accepte. C'est pas que, ça veut dire, tout ça, c'est pour nous expliquer combien c'était grave, parce que 40 jours, c'est toujours c'est le temps de la conception quasiment, 40 jours. C'est toujours la même histoire. 40 jours, c'est entre la conception et le moment où vous avez un embryon, pardon. Oui. Bon, c'est 40 jours, c'est toujours la même chose. Donc, 40 jours, c'est une nouvelle naissance, il faut tout recommencer.
Alors, nous, on retient quoi de cela?
Vous retenez ce que je vous ai dit.
Oui.
On retient que Hachem, que Hachem est extrêmement merachem, il a une telle rachamim pour le clan d'Israël qu'il nous a donné tous ses moyens. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire « moi je ne fais rien » puis de toute manière Hachem va pardonner.
C'est ça.
Mais d'un autre côté, s'il faut retenir, c'est l'importance énorme du rôle qu'Hachem a donné à l'homme. C'est-à-dire que nous sommes responsables de tout, y compris de la météo. On le dit dans le Kriyat Shema, hein. Si tu ne fais pas exactement ça, alors la pluie, tu ne l'auras pas. Elle ne sera pas là quand tu as besoin d'elle. Ok. Alors, on se verra à Emir Tsachem après Kippour.
Si Dieu veut.
Oui, bien sûr. Hachem, c'est ça que ça veut dire.
Marhatimatova.
Ah, vous avez encore des cinéma à dire. Ouais, un instant.
Bonsoir Rachel.
Le chef de Seter Elyon Bessel Shaddai Islonan, Omar Ladonoï Marcio Mesulassi et Loayef Tarbo, Kiwa Silechami Par Yakush Medeveravos, Devraso Yasser Lar, Metahat Kenafav Tirtse, Sina Besochecha Mito, Losichami Pachalayam Bechel Yahouf Yomam, Midever Baofel Yalor, Miketev Yashud Sorain, Pon Mitsidera Elev Urvav.